Quand les foules de l'été se sont éloignées, que la lumière se fait plus douce et que la grotte semble respirer le silence, l'ours ne s'endort pas. Au contraire, le sanctuaire poursuit sa mission d'accueil et de prière des pèlerins qui ne cessent de venir du monde entier. Ben oui, même hors saison. Nous en parlons aujourd'hui avec le père Michel Dauban. Bonjour père.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire. Évidemment, vous êtes un témoin privilégié, j'ai envie de dire, de la présence, en tout cas continue, des pèlerins également pendant l'hiver. Est-ce que finalement peut-on dire que l'hiver, c'est un temps qui évoque le repos, mais derrière les apparences, eh bien, la vie continue. Qu'est-ce que vous voudriez dire ou répondre, en tout cas, aux personnes qui ignorent peut-être que le sanctuaire reste ouvert tout l'hiver?
Le sanctuaire reste effectivement ouvert du 1er janvier au 31 décembre. Si je devais qualifier peut-être l'ambiance du sanctuaire au-delà des foules que vous avez évoquées et qui sont très très importantes l'été, je dirais qu'alors, si le sanctuaire était une classe d'école, l'ambiance serait studieuse. Dans le sanctuaire Jean de Lourdes, l'ambiance elle est priante, vraiment, et certains apprécient particulièrement, nous tous d'ailleurs, bien sûr, d'une certaine manière, mais les foules sont importantes parce que ce sont également elles qui donnent vie véritablement au sanctuaire. Les Lourdais apprécient de venir à la grotte pour prier dans une période qui est effectivement plus calme et où ils ont moins d'activités économiques, surtout quand c'est en lien évidemment avec le sanctuaire. Et puis, il y a aussi des groupes qui viennent du monde entier, qui viennent d'autres continents, qui ne sont pas les pèlerinages organisés que nous recevons pendant la saison des pèlerinages, mais qui donnent vraiment vie. C'est aussi des groupes qui sont très internationaux, donc c'est une autre figure. Et puis bien sûr, il y a les fêtes, hein, le 8 décembre, Noël évidemment, et après tout le mois de février avec le 11 février, le 18 février, et des foules importantes également peuvent venir. Je pense que il faut cesser d'avoir dans la tête l'image d'un sanctuaire qui vit vraiment l'été et qui s'endort l'hiver. Non, non. Il vit vraiment toute l'année, d'une autre manière, certes, mais il vit vraiment.
Les fêtes, évidemment, qui jalonnent, hein, ce temps d'hiver, on va en parler ensemble, mais peut-être il y a d'abord un temps assez marquant, traditionnellement sur la fin du mois d'octobre, c'est ce temps d'échange, de relecture, de partage avec la communauté d'accueil, hein, ces hommes, ces femmes qui, peut-être dans l'ombre, hein, accueillent les pèlerins. Vous allez réunir cette communauté d'accueil dans quelques jours. C'est pour vous l'occasion de les remercier pour le service rendu. Quel message vous allez leur
C'est un temps très important que j'ai mis en place dès mon arrivée et qui scande la saison à son début et à sa fin. Je pense que c'est important de se mobiliser avant la dispersion chacun dans nos missions, dans nos vocations respectives. Et il est important de nous réunir pour effectivement se rendre compte de ce qui s'est vécu. J'allais dire s'en féliciter, oui, d'une certaine manière. Je pense que c'est important de remercier les uns et les autres pour tout ce qui a été fait, pour tout ce que chacun a été. Rendre grâce dans la foi. À travers un film, c'est se rendre compte de tout ce qui s'est vécu de très très beau. Et c'est aussi un temps fort pour prier ensemble, pour partager, et puis pour honorer un temps de convivialité. Et on a la chance cette année, en plus, d'avoir un autre évêque qui sera avec nous. Et voilà, je m'en réjouis vraiment.
Certains d'entre eux vont quitter le sanctuaire parce qu'ils sont employés saisonniers ou parce qu'ils sont bénévoles, ils ont terminé leur saison ou leur mission de vie religieuse aussi dans le sanctuaire. Et puis d'autres vont continuer parce que c'est aussi ça l'hiver, hein, finalement, c'est aussi une offre pastorale aussi pour ces pèlerins et ces groupes de l'hiver.
Tout à fait.
Quelles sont les propositions qui peuvent être vécues finalement? On dit toujours la messe quand même en hiver, tous les jours.
Ah, mais évidemment, le programme des messes est quelque peu réduit, mais il est encore bien consistant. Les chapelets, évidemment, ne cessent pas. La prière, elle est continuelle. Les temps de procession, alors il n'y a pas les processions, les grandes processions de l'été, mais par contre, tous les week-ends, pendant tous les temps de vacances. Nous allons renforcer assez notablement les propositions de chapelet au flambeau à la grotte. Et ça correspond à une demande qui est forte. On en a programmé plus l'année dernière et on a compris qu'il fallait progresser de ce côté-là. Parce qu'en fait, c'est un temps qui est vraiment fort. On vient beaucoup pour la procession du soir. On tient beaucoup à prier devant avec notre
flambeau.
Notre flambeau, merci.
Le 11 novembre, vous avez souhaité organiser une journée de prière pour la paix. Et vous avez fait le choix d'inviter Monseigneur Rantzia, qui est l'évêque de l'éparchie ukrainienne Saint-Vladimir le Grand de Paris. En quoi cette prière pour la paix s'inscrit-elle dans la mission spirituelle de Lourdes ?
De fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment déterminant dans ce monde de signifier à quel point l'Église, d'une manière générale, veut la paix, prie la paix, fait la paix, fait des initiatives, prend des initiatives de paix. Notre pape Léon a donné, le point de départ, mais en tout cas, il a marqué le début de son pontificat par cette insistance sur la paix. Nous avons célébré en juillet dernier les 80 ans de Pax Christi avec un groupe certes modeste, mais symboliquement très très important, pour rendre visible la place que la paix occupe dans notre prière. Je me suis rendu l'année dernière en Ukraine dans le sanctuaire de Sarvanitsia pour justement rencontrer les évêques de cette église gréco-catholique qui est évidemment, comme tous les Ukrainiens, très très marquée par ce drame de la guerre qui, hélas, dure. Et il m'a semblé plus important que jamais de le signifier à travers cette proposition qui sera modeste. Alors le 11 novembre, ce n'est pas le hasard évidemment, hein, jour de l'armistice, de la guerre de 14-18. Avec donc ce nouvel évêque qui va venir pour la célébration de la messe en fin de matinée, pour la prière du chapelet l'après-midi, pour une conférence, pour un certain nombre de rencontres pour rendre vraiment visible ce lien également avec la paroisse gréco-catholique qui est aussi à Lourdes et donc pour montrer à quel point localement et symboliquement nous sommes partenaires de tous ceux qui souffrent du fait de la violence de la guerre et en particulier de l'Ukraine.
Dans le symbole, évidemment, cette date de l'armistice n'est pas un choix au hasard. On connaît Lourdes comme une terre de guérison. C'est aussi une terre de réconciliation. Alors, il y a peut-être plusieurs sens aussi, mais comment finalement peut-on essayer, depuis Lourdes, finalement, de rapprocher les peuples?
Ben, je pense que c'est la réconciliation déjà, comme vous venez de le dire, dans les cœurs, avec tout ce qui se vit dans la chapelle des confessions, avec des personnes qui sont brisées par le mal dans lequel elles sont plus ou moins prisonnières, complices. Donc déjà, c'est restaurer la personne en tant que telle. Et ensuite, l'objectif, c'est de restaurer les relations les uns avec les autres, parfois au sein d'une même communauté, et puis plus largement entre les peuples. Être artisan, être témoin d'une paix qui nous vient du ressuscité me semble aujourd'hui extrêmement important. Et c'est visible à travers la messe internationale, à travers les processions du soir. On ne voit jamais, on ne sait jamais qui vient de quel pays, qui parle telle langue, parce qu'en fait, on a de plus en plus l'habitude, évidemment, de prier le « Je vous salue Marie » en latin. On a de plus en plus de facilité à le réciter aussi à l'italien parce que l'italien est important comme le français. Enfin, bref, je pense qu'il y a une internationalisation qui est vraiment le symbole de l'universalité, de la catholicité de l'Église. Et j'allais dire, ça se fait tout seul. On se découvre à Lourdes ou on se redécouvre membre d'une seule et même Église et donc membre d'une seule et même humanité.
Ça sera aussi l'occasion, au moment de la Toussaint, puisque l'Église nous amène, voilà, nous tourner vers la lumière des saints, de pouvoir, bah, là aussi, vivre un grand temps d'Église avec tous les saints qui sont au ciel, et puis également prier pour nos familles, nos défunts. Qu'est-ce que propose le sanctuaire pour cette occasion? Est-ce que ce n'est pas vraiment l'occasion aussi de déposer un cierge pour nos familles, pour nos proches, pour nos défunts?
Oui, bien
Comment
sûr,
aborder la Toussaint depuis
comme cela
l'aube?
se fait du 1er janvier au 31 décembre, là aussi. J'ai envie de dire, la Toussaint, le sanctuaire de Lourdes va la vivre comme toute l'Église, c'est-à-dire que ni plus ni moins, mais pas moins non plus. Et de fait, c'est aussi le fait de nous rappeler cette vocation à la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Le pape Léon a canonisé récemment Carlo Acutis, Pierre Joseph Frassati, et de fait, alors, la figure de ces deux saints qui parlent particulièrement à la jeunesse a eu un réel impact dans le sanctuaire, parce que la pastorale des jeunes y est aussi très très importante. Et de fait, c'est le fait de, oui, fondamentalement, de nous rappeler que au-delà effectivement de la prière des défunts, qui est plutôt la prière du 2 novembre, c'est que c'est quand même un appel à la sainteté, et donc un appel à la vie, un appel à la joie, et il faut que ça se voie, il faut que ça se sente, il faut que ça se médite, que ça s'intériorise.
Évidemment, l'hiver est jalonné par ces fêtes religieuses. Il y a évidemment cette fête du 8 décembre, cette fête de l'Immaculée Conception. Quelque part, elle rappelle, elle remet peut-être le sanctuaire à la source du message de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. Selon vous, quelle signification, voilà, revêt particulièrement cette fête?
La fête de l'Immaculée Conception, elle est évidente dans le sanctuaire de Lourdes, puisque c'est quand même ici même, à la grotte de Massabielle, que la Vierge a proclamé son identité à Bernadette, l'a révélée à Bernadette. Elle a été la première réceptrice de cette merveilleuse nouvelle qui venait d'être édictée 4 années plus tôt avec le dogme de l'Immaculée Conception par le pape. Et donc, de fait, on est particulièrement habilité à célébrer, à fêter l'Immaculée Conception. Et là aussi, cette fête nous rappelle que, de fait, à la suite de la Vierge Marie, qui est notre mère dans la foi, nous sommes tous appelés à cette même sainteté.
Alors, il y a un geste, un hommage floral qui est fait chaque année, pour le 8 décembre, à la grotte. Quelle est la signification, finalement, de ce geste, cette offrande d'une fleur au pied de la Vierge Marie à la grotte?
Bah, les roses blanches, d'abord, même sans être à Lourdes, elles nous plaisent toujours.
C'est vrai.
Et ensuite, je pense que là aussi, dans la symbolique de la fête, c'est vraiment très très beau, parce que nous sommes renvoyés à cette rose que la Vierge avait sur chaque pied, comme Bernadette l'avait décrite. Et puis, il y a aussi ce rosier qui fleurit de temps à autre, qui a fleuri ces derniers jours pour le pèlerinage du rosaire. C'était absolument magnifique. Nous ne l'avons pas commandé, hein. Les jardiniers n'ont rien fait dans du sanctuaire, hein, pour que cette rose soit là, présente pour la fête. Je me rappelle, il y a 2 ans, pour le 8 décembre, le rosier était en fleurs. Enfin, c'est magnifique de voir à quel point la beauté dans cette grotte nous marque et rejoint véritablement le message qui touche et qui renforce notre foi.
C'est vrai qu'on aime faire la fête à Lourdes, dans le sens vraiment de célébrer grandement, et c'est propre aux grandes liturgies du sanctuaire. L'hiver nous amène évidemment au cœur de cette fête de la nativité, qui est un sommet, hein, quand même, pour notre foi de chrétiens. Qu'est-ce que le sanctuaire prépare pour ce Noël 2025?
De très très belles choses. Ah. J'invite tous ceux qui nous écoutent à venir à l'occasion de ce temps de l'Avent qui débouchera sur ce temps effectivement de Noël. Nous avons voulu cette année proposer un magnifique arbre de Noël. Nous avons voulu aussi mettre en valeur la crèche avec une exposition peut-être modeste cette année qui s'étoffera l'année prochaine, mais de différentes crèches du monde, en tout cas de différentes provinces provenance. Les jeunes du Cénacle, du Cénacolo, qui est aussi un magnifique lieu de la ville de Lourdes, non éloigné du sanctuaire, viendra le dimanche 21, le dimanche 28 dans l'après-midi pour voilà, produire leur mise en scène du récit de l'Évangile. Je n'en dis pas plus sciemment. Voilà, c'est des événements pour que vraiment cette fête, elle soit plus belle, et puis porteuse de sens, bien sûr, par rapport à ce que nous vivons, pour marquer aussi quelque part, on va vers la fin de ce jubilé de l'espérance, et pour dire que le cœur de la foi avec la nativité, c'est précisément l'espérance qui a jailli pour le monde et dont on ne cesse de bénéficier.
Voilà, alors que beaucoup pouvaient imaginer qu'à Lourdes, bien on s'endort pendant la hors saison, et bien non, le recteur du sanctuaire, le père Michel Dauba, nous démontre le contraire, et voilà, nous confirmer que le sanctuaire vit bien, pleinement, en tout cas sa mission auprès des pèlerins. Alors s'il y a encore, c'est ma dernière question, des personnes qui hésiteraient encore de venir à Lourdes pendant l'hiver, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je leur dirais que même s'il fait froid, qu'elle n'hésite pas à venir, parce que Marie est toujours là pour réconforter chacun et donc réchauffer chacun dans les corps, dans les cœurs.
Merci beaucoup, Père Michel Dauban.
Je vous en prie.
À une prochaine fois.